Alors merci pour l'accueil. Je vous transmets déjà les salutations de l'Assemblée de Jodogne, comme il a été dit, donc d'où je viens et d'où je suis pasteur. Mais si je vous visite aujourd'hui, comme à l'habitude, c'est dans le cadre de la jeunesse. Et oui, j'ai deux casquettes. J'ai celle de pasteur d'un côté et celle de la jeunesse, du mouvement, donc des APEB. Et donc, en tant que tel, je visite tous les quatrièmes dimanches une église. Ça fait partie d'un des objectifs pour pouvoir parler d'une part de la jeunesse, bien sûr, du travail qui est fait, mais aussi d'apporter un message que le Seigneur me met à cœur par rapport à ce travail qui se fait dans la jeunesse. Alors, par rapport à ce qui se fait dans la jeunesse, pour toute info, au-delà de ce qui va être dit ici, parce que je n'ai pas l'occasion de tout développer, on n'a pas de site internet, mais on est sur Facebook, à Provision Jeunesse. Donc si jamais vous voulez aller, Provision Jeunesse, c'est le nom du comité qu'on a trouvé. Donc il y a d'autres personnes qui travaillent avec moi dans le cadre de la jeunesse. Et ce comité, en fait, est là pour différentes choses. On organise des événements, on visite les églises, mais aussi les groupes de jeunes, quand il y en a un. Les groupes d'ados aussi. J'ai été dernièrement à Carnières, où ils ont un groupe où ils forment, ils donnent des cours de théologie adaptés aux ados. Et donc j'ai été enseigné deux fois là-bas. Donc il y a différentes choses qui se font. On organise aussi un événement au niveau de toute la jeunesse, qui est une idée qui s'est faite ici en mai, le 1er mai. On avait 70 jeunes qui étaient présents. Donc c'était toute une journée sur l'émerveillement. On s'émerveillait de la nature, on est allé dehors, on a fait tout un jeu de pistes. Et puis il y a eu tout un message autour de l'émerveillement. Comment on s'émerveille devant la plus belle des merveilles, qui est Dieu lui-même, qui a créé toutes ces choses. Et toutes ces choses parlent de lui. Ce que nous faisons aussi, c'est tout ce qui est communication. Donc si vous ne recevez pas nos mails, normalement on a une lettre de nouvelles qui passe par les églises, qui est envoyée aux correspondants. Ce qu'on propose aussi, c'est de nous donner l'adresse mail pour recevoir les informations. Donc tous les 3 mois, plus ou moins, on essaye de fournir une lettre de nouvelles qui parle de justement ce que je suis en train de vous dire là, qui communique aussi les événements qui existent. Et là, évidemment, avec l'été qui arrive, il y a bien sûr les camps, camps d'enfants, camps d'ados, séjour jeune maintenant, tout nouveau séjour jeune qui revient, hein, anciennement Cap Jeune à l'époque, et puis maintenant le séjour jeune revient, ainsi que les formations, le CFB, formation particulièrement adressée aux jeunes, hein, jusqu'à 30 ans. Et donc ensuite, il y a aussi tout ce qui se fait un peu partout dans différents camps autour de nous pendant l'été, différents engagements qui se font, les bénévoles qui sont là aussi, et puis la convention évidemment qui arrive, où nous occupons nous particulièrement de la partie ado, donc ça c'est en septembre. Donc voilà, différentes choses qui sont là, puis des rencontres aussi qui se font, je fais partie aussi du CERAP. Donc là aussi, on essaie de parler par rapport à la jeunesse, d'être impliqué auprès des responsables des églises. Voilà, différents endroits, réunions de délégués aussi, on est présent pour avoir vraiment cette sensibilisation à la jeunesse et à la place de la jeunesse dans nos assemblées. Alors on dit souvent c'est l'église de demain, mais ils sont déjà là dans l'église aujourd'hui. Donc c'est important d'en tenir compte et de les préparer pour demain. Parce qu'en effet, demain, peut-être, ils vont prendre une responsabilité, s'engager de différentes manières. Et déjà aujourd'hui, plusieurs servent le Seigneur à différents endroits. Voilà, ça c'était pour la partie jeunesse. Alors on a envoyé aussi à l'époque le projet prière qui lui s'est tout doucement terminé, on est passé à autre chose. Mais le projet prière était aussi d'encourager les églises dans les différents domaines. On avait parlé du disciple, de la prière ou différentes autres choses. La dernière fois que j'étais venu, je vous avais parlé à propos de notre vision. Notre vision, c'est quoi? On l'avait reçu du Seigneur, c'était de pouvoir servir et équiper la jeunesse belge afin que chaque jeune soit enraciné dans le Seigneur et déterminé dans son appel. Alors c'est de bien grands mots, de bien grandes phrases. Qu'est-ce qui se cache là derrière? Pour nous, enraciner dans le Seigneur, c'est comprendre son identité. Et ça, on en avait parlé la dernière fois pour ceux qui étaient là. J'avais parlé sur l'identité à travers les tentations de Jésus qui était remis en question dans son identité par le diable. L'autre aspect, c'est la mission. Pourquoi je suis sur la terre? Quel est mon appel? Quel est mon ministère, mon service, mon don? Pourquoi je suis là? L'identité est commune à tous. Nous avons la même identité en Christ. Mais Éphésiens 4 nous dira que Christ a distribué des dons et des ministères différents à chacun. Et donc, nous avons une mission différente. Et en plus, en tant que communauté aussi, nous avons une mission qui est particulière à la communauté en fonction des gens et en fonction du contexte dans lequel on est. Et c'est sur ça que j'aimerais insister aujourd'hui. La dernière fois, j'avais parlé d'identité et aujourd'hui, j'aimerais parler de mission. Quelle est notre mission? Et ça rejoint aussi la jeunesse, parce que la jeunesse, c'est aussi une mission, c'est des gens vers qui on veut aller, vers les jeunes aussi, et eux-mêmes sont appelés à être en mission vers leur génération. Donc la mission fait partie de toutes les générations. Même à la Pentecôte, qu'on va célébrer bientôt, l'Esprit sera répandu sur, trois petits points, les jeunes gens qui auront tatata, les vieillards, etc. Sur chacun, ceux qui sont appelés à servir, Dieu va répandre son Esprit pour la mission. Et la dernière fois, j'avais pris en exemple Jésus comme modèle d'identité, comme modèle de prière aussi. Souvenez-vous à son baptême, quand il prie, le ciel s'ouvre, l'Esprit descend et le Père confirme dans son cœur l'identité qu'il a. Jésus est vraiment le modèle par excellence, et donc j'aimerais me pencher avec vous sur quelle était la mission de Jésus au final. Quelle était sa mission? Alors, on dira facilement, il était destiné à la croix. On en avait même parlé la dernière fois, il était venu récupérer tout ce que le diable nous avait pris à la croix. Mais juste après la tentation, dans Luc chapitre 4, nous allons voir que Jésus va dire explicitement ce pourquoi il est venu. Il est venu nous parler de quelque chose. Et dans le contexte des élections, cette chose est primordiale. Vous allez voir. On est dans Luc chapitre 4. La dernière fois que j'étais venu, on avait lu les premiers versets. On avait lu, je pense, jusqu'au verset 13, peut-être 14. Ici, j'aimerais continuer, mais en allant direct sur la fin du chapitre, avec les deux derniers versets, où il nous est dit pourquoi Jésus est venu. C'est lui-même qui dit « Voilà pourquoi je suis là ». Mais avant, j'aimerais prier pour bénir sa parole. Seigneur, merci encore parce que ce matin, tu nous as rappelé, Seigneur, qui tu étais. Tu nous as rappelé que tu n'étais pas une statue. Tu n'es pas sourd. Tu n'as pas une bouche qui ne parle pas. Tu n'es pas quelque chose qui est vain. Mais tu es vivant. Tu es réel. Merci pour ta présence au milieu de nous. Merci de continuer de te manifester au milieu de nous. Parce que déjà à travers la louange de ton peuple, tu te manifestes. Tu parles, tu agis. Même cette louange rappelle qui tu es. Cette louange nous enseigne. Cette louange rappelle ta parole. Merci aussi parce qu'à travers les Écritures, tu veux aussi nous parler. À travers ton esprit, tu veux aussi nous parler. Alors ouvre nos cœurs, dispose nos esprits. Et que toute œuvre des ténèbres qui voudrait empêcher que cette parole soit semée, que ce soit des oiseaux, que ce soit un chemin, que ce soit des pierres ou des ronces, que tu puisses les ôter dans le nom de Jésus et que tu puisses nous rendre disponibles, préparer notre terre, la disposer pleinement afin de recevoir la semence du royaume, la semence de ta parole qui peut transformer et chambouler toute notre vie. Dans le nom de Jésus. Amen. On va aller au verset 43 et 44. Où Jésus va parler et va dire pourquoi il est venu. Mais il leur dit, il faut aussi que j'annonce aux autres villes la bonne nouvelle du royaume de Dieu, car c'est pour cela que j'ai été envoyé. Et il prêchait dans les synagogues de la Galilée. La bonne nouvelle du royaume de Dieu. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que le royaume de Dieu? Parce qu'on parle souvent de bonnes nouvelles, d'évangiles, hein, c'est un peu préparé. Qu'est-ce que c'est que cette bonne nouvelle du royaume de Dieu? Est-ce que c'est une nouvelle religion qui arrive, qui débarque du ciel, il vient apprendre aux Juifs, tiens, il y a quelque chose de nouveau, vous êtes plantés. Qu'est-ce que c'est que cette bonne nouvelle du royaume de Dieu? Alors ce qui est aussi intéressant, c'est que Jésus a dit un petit peu plus tôt, sans le dire, qu'il avait une autre mission, on pourrait croire. Mais on va se demander, se poser la question, est-ce que c'est une autre mission, est-ce que c'est la même mission? On retourne un peu en arrière dans les versets, au verset 16. Donc il a quitté le désert, il retourne en Galilée, il enseigne aussi dans les synagogues, il était glorifié de tous, revêtu de la puissance de l'Esprit. Ok, ça c'est le contexte, il vient du désert, il vit tout ça. Et puis il se rendit à Nazareth, verset 16, où il avait été élevé et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Jusque-là, rien de spécial, il faisait comme tout le monde. Il se leva pour faire la lecture. Et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour... » Ah, on va savoir pourquoi. pour annoncer une bonne nouvelle. Ah ben, on est dans le même cadre là. Quelle est cette bonne nouvelle? Une bonne nouvelle aux pauvres. Qu'est-ce qu'on peut annoncer aux pauvres? Une richesse sûrement. Il y a quelque chose de riche, il y a quelque chose, un héritage, il y a quelque chose d'intéressant là. Qu'est-ce qui va intéresser les pauvres? Je vous laisse à la réflexion. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Tout un programme. Alors, d'une part, il dit « Je suis venu annoncer une bonne nouvelle du royaume », et puis là, il parle de toute une liste de choses concrètes. Est-ce que c'est différent? Est-ce que c'est la même chose? Est-ce qu'il est venu pour deux choses différentes? Il dit d'une chose et puis une autre, parce que pour finir, il va dire « Ensuite, il roule le livre, il le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors, il commença à leur dire « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Il s'approprie cela. Il dit « Voilà, c'est ma mission. » Et elle s'ouvre maintenant. Aujourd'hui, je commence. C'est parti. Alors, c'est intéressant de se poser la question. Moi, je me suis posé la question, est-ce que c'est deux choses différentes? Alors, on va aller un petit peu plus loin. Dans Romains chapitre 1, parce que j'aimerais vraiment qu'on tourne autour de cette bonne nouvelle. Quelle est cette bonne nouvelle? Romains chapitre 1, au verset 16, c'est les versets qui ont un peu chamboulé Luther à l'époque de la Réforme, parce qu'il remettait l'Évangile dans sa juste perspective. Qu'est-ce que l'Évangile? Est-ce que vous savez ce que signifie Évangile? Bonne nouvelle. Donc on est dans la même chose. Jésus venait annoncer une bonne nouvelle, la bonne nouvelle du royaume, la bonne nouvelle aux pauvres, et l'Évangile est une bonne nouvelle. C'est la même chose. On est d'accord. Ici, on va comprendre ce qu'est la bonne nouvelle. Qu'est-ce que la bonne nouvelle? Verset 16. C'est la bonne nouvelle que nous-mêmes devons annoncer, que Paul a annoncée lui-même. Verset 16. « Car je n'ai point honte de l'Évangile, donc de la bonne nouvelle. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. » Et verset 17, pour compléter, « Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. » Ici, nous découvrons que la bonne nouvelle est quoi? Une puissance. Une puissance, dynamos. C'est mieux qu'un attentat. C'est une puissance. C'est le même terme que dynamite. Ça a donné dynamite. C'est une puissance. Ok. Pourquoi? Donc il y a la puissance pour le salut. Et le salut c'est quoi? En grec c'est sozo. C'est le fait d'être sauvé. Ça c'est facile, on a l'habitude. Mais c'est aussi l'idée de guérir, libérer, rétablir dans l'état d'origine. Ça c'est l'idée. C'est comme si quelqu'un saute dans l'eau et est prêt à se noyer. On plonge, on le cherche, on le remet sur place, on le sèche et on le reprend comme s'il n'était pas tombé. C'est l'idée de nous ramener comme si en Adam. Adam qui n'avait rien fait. L'idée du salut est de nous rétablir complètement. Et si vous remarquez dans ce terme sozo, vous pouvez aller voir, vous tapez sozo sur Google, vous verrez les différentes définitions. En fait, c'est des définitions qui nous font repenser à quoi? Au texte qu'on vient de lire, à la mission de Jésus. Il était venu pour quoi? Pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour libérer les captifs, pour annoncer une année de grâce, une année de salut, un espoir. La situation dans laquelle tu es n'est pas désespérée. Et Dieu peut te rétablir dans tous ces aspects-là. Il peut même t'ouvrir les yeux, toi qui te sens aveugle. Ça, c'est la bonne nouvelle de la puissance de Dieu qui agit. Et on va voir plus loin le lien encore. On va aller dans... Je vérifie juste un dernier texte. 1 Corinthiens chapitre 4, verset 19, pour boucler la boucle. 1 Corinthiens chapitre 4, verset 19. Verset 20, c'est plutôt le verset 20. Je voulais lire avant, mais on va lire juste le verset 20. Car le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. Car le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. Ici, on voit le lien entre tout. Jésus venait annoncer une bonne nouvelle du royaume de Dieu. L'évangile est une puissance pour le salut de quiconque. Jésus a dit « J'ai été oint », Ésaïe 61, qui s'approprie pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour libérer les captifs. Et l'évangile est une puissance pour le salut global de l'être. Donc la bonne nouvelle au final, du royaume, l'évangile, toutes ces choses-là, la puissance de Dieu, on voit ici que ce n'est qu'une et même chose. Et donc j'aimerais qu'on puisse s'arrêter sur qu'est-ce que ce royaume de Dieu au final? Si c'est ce que Jésus est venu annoncer. Et nous remarquons, ce qui est intéressant, c'est que Jésus l'a annoncé dès le début de son ministère. C'était le premier message qu'il a fait. Il le dit ici. Je suis venu pour annoncer la bonne nouvelle du royaume. Ensuite, les paraboles. À quoi font souvent référence les paraboles? Pourquoi Jésus dit une parabole? Chaque fois, il dit, le royaume de Dieu est comme. Donc même les paraboles, l'image de la parabole nous fait référence chaque fois au royaume de Dieu. Quand Jésus envoie même ses disciples par deux, il leur dira qu'est-ce qu'ils doivent faire, qu'est-ce qu'ils doivent annoncer. Luc 10, Matthieu 10. La bonne nouvelle, c'est ce que vous direz, quand vous irez quelque part, vous arrêtez dans la maison de paix, vous déposez la paix et vous dites le royaume des cieux est là. Donc si Jésus en parle, ses disciples en parlent, cette notion du royaume de Dieu est clé. Et si on va même plus loin dans les Écritures, quand les disciples veulent se battre pour essayer d'avoir une place, ce n'est pas dans les rangs de l'Église, c'est où? Dans le royaume de Dieu. Et juste avant, on est dans la période ici entre Pâques et l'Ascension, et on arrive vers la Pentecôte. Dans cette période où Jésus va se manifester à ses disciples, on peut le prendre dans Actes chapitre 1. Est-ce que vous savez de quoi il va s'entretenir? C'est un peu les derniers moments de Jésus. C'est les dernières choses qu'il veut laisser à ses disciples. Acte 1, verset 3. Il passe du temps, 40 jours avec eux. Et vous savez de quoi il va leur parler pendant les 40 jours? Regardez verset 3. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Jésus a 40 jours avec ses disciples, c'est le moment où il va partir. Ce qu'il a de plus essentiel, il leur communique. C'est le royaume de Dieu. Les principes du royaume de Dieu. Parce qu'il va partir. On voit ici que dans tous les aspects, et si on va plus loin, même Paul le parlera par la suite, de la manière dont il vient. Il dit « Je ne viens pas vers vous avec un langage de sagesse, avec des beaux discours, mais je viens vers vous avec une démonstration de puissance, c'est-à-dire une démonstration du royaume. Je viens montrer que le royaume est là. Il fait pareil que les disciples. » On voit partout, vous allez même dans les épîtres, parler de ces choses-là. Le royaume de Dieu, ce que Jésus a annoncé, ce que les disciples ont continué d'annoncer, ce que Jésus lui-même a laissé avant de partir. Pourquoi? Qu'est-ce que le royaume de Dieu au final? Et c'est là-dessus que j'aimerais pouvoir insister. Le royaume de Dieu, c'est d'abord l'histoire d'un roi. C'est un roi qui règne. On l'a chanté plusieurs reprises ce matin. On l'a rappelé dans le psaume qui a été lu. Il règne dans les cieux. Il règne. Dieu règne. Il est souverain. C'est-à-dire qu'il impose qui il est. Sa volonté, sa pensée, décrive ce qu'il veut, ce qu'il souhaite et il l'impose. Il est souverain, il fait ce qu'il veut. Il est aussi Seigneur. C'est-à-dire que tout ce qui est sur terre lui appartient. Qu'est-ce que c'est un roi ? Et ça, on n'a pas l'habitude, parce que quand on voit notre gouvernement et notre roi, souvent c'est... Comment on voit le roi en général ? Allez, dites-moi. Comment on voit notre roi en général ici ? Quand vous pensez au roi Philippe, pensez à quoi ?
J'espère à l'imitateur de Christ. J'espère à l'imitateur de Christ.
Non, mais sérieusement, sérieusement. Qu'est-ce qu'on pense du roi ? Là, c'est le gentil, ça c'est gentil. Qui ?
Il est juste roi.
Il est roi, mais est-ce qu'il est vraiment roi ? Est-ce qu'on pense qu'il est roi, notre roi ici ? Oui, oui, d'accord, mais ça, c'est... concrètement, dans le gouvernement, comment on représente en bon belge, on prend les bons belges, c'est quoi le roi ? Comment on pense au roi ? Oui, attends, je peux avoir l'avis des autres ? C'est gentil. Non, mais je parle du roi Philippe, hein. Parce que je ne parle pas de Jésus-Christ. Hein.
Il est représentant.
Il est représentant, oui. Mais est-ce qu'on a l'impression vraiment d'avoir un roi ? Non, on a plutôt l'impression d'avoir quoi ? Honnêtement, c'est pas pour le dénigrer, c'est la réalité, c'est comme ça. Il est plus quoi le roi ici chez nous ?
Un symbole protocolaire,
voilà. C'est une image. Mais fondamentalement, qui gouverne ? Le gouvernement pour qui on a voté, mais logiquement, qui gouverne réellement ? Si on a le droit de voter, c'est parce que qui dirige logiquement ? Le peuple. On est en démocratie. On est d'accord. Donc c'est plus le roi qui gouverne, c'est le peuple qui décide, qui nomme ses élus, ce qu'on a fait aujourd'hui. Il y en a qui l'ont déjà fait, qui vont peut-être encore le faire. On nomme, soi-disant pour nous représenter, représenter ce que nous on pense, et gouverner selon ce que nous on pense. On est d'accord là-dessus. C'est la démocratie. Ok ? Donc l'image du roi est un peu faussée. Quand on nous parle d'un roi, limite, moi j'aime bien écouter la radio le matin, voter pour moi s'il y en a qui écoutent parfois, où on décrit le roi, on rigole du roi, où limite c'est la reine Mathilde qui fait plus les choses en arrière-fond, et le roi il est un petit peu là pour faire genre, quoi. Hein, et on lui dit ce qu'il doit faire. Voilà, ça c'est un peu la caricature dans l'extrême. Mais donc la problématique c'est que nous avons ça comme image du roi. Peut-être qu'il y en a qui viennent ici d'autres pays, qui ont une autre image du roi, une autre culture, mais ici dans notre pays, on est habitué à avoir un roi dont limite on rigole un peu et on se demande ce qu'il fait là. N'est-ce pas ? Et donc en tant qu'homme, quand on nous parle de roi, on se dit, ouais, il est sympa. De toute manière, c'est moi qui décide. Bah ouais. On croit, évidemment, hein, on est d'accord. Parce que la démocratie, fondamentalement, si on va plus loin, il y a toujours bien quelqu'un qui décide derrière, mais on ne sait pas c'est qui. Sauf ceux qui savent, le savent. Il y en a qui le savent, mais tout le monde n'est pas censé être au courant. Et on croit que c'est nous qui décidons. Mais bon, on ne va pas rentrer dans la politique aujourd'hui, c'est vraiment pas le but, mais c'est simplement pour nous dire qu'on a une mauvaise image du roi. Et c'est pas évident qu'on dit que Christ est roi, de s'imaginer déjà ce que c'est d'être roi et de nous-mêmes, quelle est notre attitude et notre réaction par rapport à l'idée qu'il est roi. D'accord ? Alors on va aller un petit peu plus loin là-dedans, parce que dans, par exemple, dans 1 Roi 8, mais on ne va pas le prendre ici, 1 Samuel 8, les versets 10 à 17, je vais simplement paraphraser, le peuple, c'est le moment où le peuple veut un roi. Donc Israël va vouloir un roi. Et là, vous pourrez aller voir, donc c'est 1 Samuel 8, vous pourrez aller lire, versets 10 à 17. Vous avez la description du prophète qui dit, vous êtes sûr que vous voulez un roi ? Parce que si vous allez avoir un roi, qu'est-ce qui va se passer ? Il va prendre vos fils, et il va en faire des soldats, il va les mettre sur ses chars. Il va prendre vos filles qui vont s'occuper de ses affaires. Il va commencer à prendre tout ce que vous avez, parce que quand on a un roi, tout lui appartient. Il décide de tout. Si le roi veut maintenant avoir ta maison, il vient chez toi, il prend ta maison. Il fait ce qu'il veut, il est roi. Êtes-vous sûr que vous voulez un roi ? Alors on en rigole, mais la même question nous est posée. Est-ce que nous voulons un roi ? Dans ce contexte-là. Parce qu'on va aller un petit peu plus loin, vous allez voir. J'ai repris un message, donc ça ne vient pas de moi, de quelqu'un qui a fait la comparaison entre le régime démocratique, république, etc., ce qu'on vit ici, et le fait d'avoir un roi et une royauté, les différences. Et donc, on va un petit peu regarder les différences ensemble et voir à la fin si on veut toujours un roi. Ok ? Parce que c'est ça qui n'est pas toujours évident. Et on dit facilement, oui, je veux de Jésus comme roi, parce qu'on s'imagine le roi. Peut-être Philippe. Mais quand on comprend l'enjeu d'avoir un roi, on se dit, on y réfléchit à deux fois. Vous allez voir. Parce que ce n'est pas rien d'avoir un roi. Alors, comme on l'a vu, la première chose, c'est que dans le cadre d'une démocratie, le pouvoir appartient au peuple. Ok ? Ça, c'est la première chose. C'est le peuple qui décide. Dans la seconde, donc ici, quand on a un roi, c'est le roi qui décide. Ok ? Jusque-là, ça va, on l'a déjà vu, c'est facile. Alors, dans le cadre d'une démocratie, on vote pour élire les ministres, le gouvernement, voire le roi ou le président. On est d'accord ? Dans le cadre d'un royaume, comment ça se passe ? C'est le roi qui décide sur base de droit divin. Il est élu par Dieu. C'est Dieu qui l'a élu. Donc c'est ça qui faisait peur à l'époque, hein, parce que vous ne pouvez rien lui dire, c'est Dieu qui a décidé. On est d'accord jusque-là. Donc là, ça change la donne. Le royaume fonctionne par élection de Dieu lui-même qui décide. Est-ce que dans l'Église, c'est différent ? Qui appelle au ministère ? Dieu. Qui décide de ce qu'il va faire de nos vies ? Dieu. Donc ça devrait fonctionner comme ça aussi. Est-ce que ça fonctionne toujours comme ça ? Ça, c'est une autre question. Mais on va pas aller là-dessus. Alors, dans le cadre de la loi, qui choisit les lois dans le cadre de la démocratie ? Et qui peut même modifier ces lois ? De nouveau, ceux qui décident. Et ça devrait être le peuple. On est d'accord. Donc si on veut changer une loi, même chose, manifestation dans la rue, gilets jaunes, on proteste, on veut changer les lois, etc. Parce qu'au final, on dit, c'est nous qui décidons. Mais comme tout le monde fait ça, ben, tout le monde y va et puis pff, ça crée tout ça. Comment ça se passe dans le cadre du royaume ? Qui décide des lois et qui change les lois ? Le roi. Et ça va plus loin. Quand le roi parle, c'est acté. Point. D'accord, pas d'accord, c'est comme ça. Ça, c'est dans le cadre du royaume. C'est le roi lui-même qui a établi cette loi. Et c'est le roi lui-même qui peut changer cette loi. Personne d'autre. Sans l'autorisation du roi, on n'y touche pas. Tout est entre les mains du roi. Alors, un qui fait plus mal. Jusque-là, ça peut encore aller. Mais il y en a un qui va faire plus mal maintenant. Dans le cadre de la démocratie, le gros avantage, c'est que chacun donne son point de vue. Chacun peut dire ce qu'il pense. Chacun peut même, comme on l'a dit, espérer que ses pensées arrivent jusque là-haut et que servent au gouvernement. C'est un peu l'espoir en ce moment. Hein. C'est un peu l'espoir que même les représentants des partis essaient de nous faire croire. On est d'accord. Comment ça se passe dans le cadre de la royauté ? Seul le point de vue du roi compte. Tu n'as pas de point de vue. Celle-là, elle fait mal. Tu n'as pas de point de vue. J'arrête un peu là-dessus, parce que souvent, c'est celle qui... On est démocratique quand même, non ? On peut quand même dire ce qu'on pense un peu quand même. Non. Tu n'as pas de point de vue dans le cadre du royaume. Ouais, mais on peut quand même discuter un peu avec... On peut parler, mais qu'est-ce qui compte au final ? Son point de vue. Ça, c'est celle qui est le plus dure. Et c'est là que ça nous fait mal. Parce que ça touche à ce qu'on connaît ici sur Terre, qui fait partie de nous, où nous, ici, on nous dit qu'on a le droit, et même on nous pousse, et même nos enfants leur disent « Ayez votre propre point de vue. Ayez un esprit critique. » Ça, c'est notre société autour de nous. La démocratie. Chacun a le droit de penser comme il veut penser. Esprit cartésien. Je ne crois que ce que je pense. Il n'y a que ça qui compte. Le reste, je doute. C'est ça qui a détrôné les rois. Parce que l'homme a cru qu'il pouvait penser de lui-même. Et s'est dit, je n'ai plus besoin d'un roi. Nous pensons chacun comme nous voulons et nous allons créer une démocratie. Mais ce n'est pas comme ça dans le royaume. Dans le royaume, ce qui compte, c'est le point de vue du roi. Et nous, on suit. Jésus ne cherche pas des beaux parleurs. Il cherche des gens qui obéissent. Il ne cherche pas des gens qui ont un point de vue, il cherche des gens qui vont entendre son point de vue et qui vont le mettre en place. Et ça change tout. Mais nous, on n'est pas habitués parce qu'on est dans une autre culture. On est dans une culture où on nous dit, tu as le droit d'avoir tes avis, tu as le droit d'avoir ton point de vue. Ça n'empêche pas la relation. Attention à ne pas distinguer, on n'est plus des robots, ce n'est pas ça que je veux dire. Mais le point final, c'est lui qui le donne. Ou alors c'est nous. Mais ça veut dire qu'on a fait un choix. Un autre aspect, dans le cadre, on le voit ici actuellement, des votes, c'est quand le dirigeant ne plaît pas dans une démocratie, qu'est-ce qu'on fait? On peut voter pour changer le dirigeant. Donc le peuple peut décider de changer le dirigeant, on le voit actuellement. Okay, on peut même, dans les cas extrêmes, même à faire avancer les choses ou bouger au niveau des élections parce qu'il y a vraiment un problème. Il y a des choses qui sont mises en place pour, si vraiment le dirigeant est mauvais, on va le faire évincer. Mais comment ça se passe dans le cadre du royaume?
Le roi,
non, dans le cadre du royaume, c'est le peuple qui change. Dans le cadre du royaume, c'est le peuple qui change. C'est pas le roi. Et ça, c'est toute la nuance. En démocratie, on change le gouvernement. Dans le royaume, on change le peuple. Le peuple doit s'adapter. S'il y a quelque chose qui ne va pas, c'est que le peuple ne suit pas. Donc le message du royaume, il n'est pas toujours évident, parce qu'il va à l'encontre complètement de notre culture. C'est une culture complètement différente. Ce n'est plus nos idées qui comptent, mais c'est ses idées. Et j'aime bien Paul quand il prend, pour le moment à l'église, à notre église, on est en train de parcourir Éphésiens. J'aimerais juste lire un verset dans Éphésiens 4, qui montre que tout ce que je suis en train de nous dire là, même Paul le dénonce. Paul est en train de parler aux Éphésiens, à des chrétiens. Il leur dit, grâce à Christ, vous n'êtes plus dans les ténèbres, vous n'êtes plus les fils de la rébellion, vous n'êtes plus des gens soumis au prince de l'air, vous n'êtes plus des gens soumis à Satan, vous êtes des gens qui sont maintenant appelés à être enfants de lumière, à représenter la lumière. Mais malheureusement, ce n'est pas ce qui se passe au milieu d'eux. Il leur dit au verset 17, Éphésiens 4, verset 17. Voici ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Pourquoi? Regardez la suite. Quel est le danger de marcher selon ses propres pensées? Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu. À cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Voilà les conséquences quand on suit ses propres pensées. Ça va même plus loin. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Etc, etc. Et il leur dit, vous devez maintenant vous dépouiller de tout ça. Tout ça doit disparaître de vous. Pourquoi? Quel est le point de départ? J'ai décidé de penser par moi-même. J'ai choisi ma voie. Et plusieurs fois, même déjà dans l'Ancien Testament, il leur dira, vous avez choisi vos voies et Dieu les laissait aller dans leur voie. Mais il les rappelle chaque fois à revenir dans ses voies, à lui, dans ce que lui dit et dans ce que lui demande. En fait, cela démontre un problème fondamental en nous, qui est la rébellion. Adam a choisi une autre voie que celle que Dieu lui avait donnée. Il avait tout et il a choisi de prendre le fruit et de désobéir. Et à cause de ça, cette rébellion s'est multipliée et a créé aujourd'hui ce qu'on appelle la démocratie. C'est-à-dire chacun peut décider pour lui-même, pour sa propre vie. On entend ça partout. Chacun est son propre roi. On parle même des enfants rois. C'est les enfants qui décident. C'est eux qui veulent ça, qui veulent telle chose, qui veulent ci. Et les parents courent derrière dans tous les sens pour tout faire pour qu'ils soient le mieux possible. On a inversé complètement la donne. Et à cause de ça, on crée une génération rebelle. Est-ce qu'on peut encore dire non à nos enfants? C'est presque péché de dire non pour la société. Je ne parle pas devant Dieu. Mais on en est presque au point de dire non à quelqu'un aujourd'hui, à l'heure actuelle, ça devient mal vu. Parce que tu l'empêches de s'épanouir. Tu l'empêches et tu vas à l'encontre de ses pensées, de son bien-être, de ce que lui est. Donc il n'y a plus de limite. Et donc nous encourageons tout le monde à être des bons rebelles. On est poussé à ça dans notre société. Parce que derrière tout ça, il y a le rebelle par excellence. Parce que l'objectif, c'est quoi? C'est pas de faire ce que je veux. Christ lui-même montra l'exemple avant d'aller à la croix. Ce n'est pas ma volonté qui compte, mais ta volonté, Père. Donc Christ lui-même, en allant à la croix, en tant qu'humain, il n'a pas envie de souffrir. Quel humain a envie de souffrir? Mais il dit non pas ma volonté, mais ta volonté. Et j'aimerais juste terminer par l'histoire très connue que j'ai redécouvert à travers ce message aussi. C'est l'histoire du fils prodigue. L'histoire du fils prodigue démontre un fils qui décide de ne plus se soumettre au père, mais de partir faire sa propre vie. Tout le monde voit l'histoire du fils prodigue? Est-ce que je dois la raconter ou je peux juste l'illustrer et l'utiliser? Plus ou moins, ça va. Donc, il quitte, il prend l'argent de l'héritage, donc il considère son père comme mort. Il sort de l'autorité de son père, il sort de la maison du père, donc il n'est plus sous le couvert du père. Et en tant que prenant l'héritage, il ne considère qu'il n'a plus de père, donc il n'est plus fils. Il quitte ça. Et il dit, je vais vivre ma propre vie, faire mes propres choix, selon mes propres pensées. Il part, et là, qu'est-ce qui se passe? Il dilapide tout le bien. Et il se retrouve parmi les cochons. D'accord? Il va devoir manger comme les cochons, etc., etc. Ensuite, il va se rendre compte de l'état dans lequel il est. Il va rentrer en lui-même. Il va se rendre compte que chez son père, il était bien mieux. Il avait tout. Et il était fils. Mais il se dit, mon père ne m'acceptera jamais après ce que je lui ai fait. Et il décide de se dire, je vais revenir là-bas juste comme un serviteur. Juste pour le servir. Parce que même les serviteurs là-bas sont mieux que dans ma situation actuelle. Il repart. Vous connaissez l'histoire et le père l'accueille, le prend dans les bras, le saisit, le ramène et le rétablit comme fils, lui redonnant la bague, le manteau, le lavant, faisant une grande fête pour l'accueillir. Il est rétabli, le père est heureux parce que le fils est retrouvé. De nouveau, parabole qui reparle du royaume. Alors, ce que j'aime bien dans cette histoire, c'est deux choses que j'aimerais vous laisser. C'est la réaction du frère. Voyez l'autre frère, le frère aîné. On pourrait se dire, lui, il est resté dans la maison. Mais par son attitude et par sa réaction, quand le fils, l'autre fils rentre, son frère, et qu'il réagit en disant, moi je ne comprends pas cette histoire, il va se fâcher, il va être jaloux de ce qui s'est passé là. Ça démontre quoi aussi en lui? Le même esprit rebelle. Il n'est pas d'accord avec la décision du père. Il se rebelle face à la décision du père. Donc les deux fils sont en mode rébellion. Et à cause de cette rébellion, au final, les deux fils passent à côté de l'essentiel. Quel est cet essentiel? C'est qu'en restant soumis au père, ils sont fils. Et en tant que fils, leur père lui dira, qu'est-ce qu'il va dire au fils aîné? Mais enfin, tu n'as pas compris. Tout ce qui est ici est à toi. La rébellion nous empêche de voir l'héritage. La rébellion nous empêche de voir le royaume. La rébellion nous empêche de voir tout ce que nous avons accès auprès du Père. Parce que l'avantage quand nous avons un roi à qui tout appartient, c'est que tout ce que j'ai lui appartient, mais tout ce qu'il a m'appartient. Ça, c'est la contrepartie. L'héritage est à moi. Voici la bonne nouvelle pour les pauvres. Revenez auprès du roi. Parce que tout ce qui est à lui devient à toi. Il devient ton père et tu es son enfant. Et c'est ça la bonne nouvelle à annoncer. La deuxième chose auprès duquel je voulais insister, c'est que l'évangile pour moi peut être parfois mal compris. Le danger de l'évangile, de la bonne nouvelle, c'est de croire que dans la situation dans laquelle je suis, qui pourrait être représentée par celle du fils qui est parmi les cochons, j'ai fait ma vie comme un pécheur, j'ai suivi mes propres pensées, je me retrouve parmi les cochons. Ok, on est parmi les cochons, on mange la nourriture des cochons, Ça peut être illustré par le péché, la vie de pécheur. D'accord ? Le danger de l'évangile, c'est d'annoncer que le Père vient parmi les cochons s'asseoir avec nous et nous dire « Courage, tiens le coup, je suis là avec toi. Continue de manger, continue de faire ta vie, mais je suis là. » On peut prêcher un évangile qui fait que la vie ne change pas, mais Jésus est avec toi. Est-ce que c'est juste ? Est-ce que c'est ça la bonne nouvelle, que juste Jésus est à côté de toi et un jour tu le retrouveras là-haut ? C'est ça la bonne nouvelle ? Donc ma vie ne change rien. Il n'y a rien qui change, mais Jésus est avec toi. C'est pas ça que Jésus a annoncé. Il a annoncé la puissance qui était en lui, qui était même revêtue de puissance pour libérer, guérir, sauver, rétablir, publier une année de grâce, et si on va plus loin dans Ésaïe, rebâtir sur les ruines, rétablir complètement. C'est-à-dire, comme le Fils au final, comme cette parabole, il était parmi les cochons, mais il rentra en lui-même et revient vers la maison, se souvenant que chez le Père, c'était mieux. La bonne nouvelle, c'est de rappeler comment c'est chez le Père. Ce n'est pas non plus d'annoncer l'enfer. Jésus n'a jamais annoncé l'enfer. Il a annoncé le royaume de Dieu. Il réexpliquait aux gens, voilà comment est la maison du Père. Voilà comment est sa présence. Voilà comment c'est chez le Père. Souviens-toi. Voilà ce que tu as perdu. Reviens à la maison. Et la conversion, c'est de se dire, je change de route et je retourne vers le Père. Je reviens me soumettre à sa volonté. Et je ne reviens pas comme un fils en disant, ouais, c'est bon, c'est réglé. Non, je reviens comme un serviteur. Père, que puis-je faire pour toi ? Vois ce que j'ai fait. Vois comment je me suis rebellé. Je veux simplement venir te servir. Et là, le Père dit, viens mon fils. Tu n'as pas compris. Boum ! Il sort le grand jeu. Héritage. Libération, restauration. Et il refait tout et nous rétablit comme fils. Afin que nous-mêmes, en tant que fils, nous puissions aller chercher les autres qui n'ont toujours pas compris. Parler de ce que nous avons vu dans sa présence et dire, il y a quelque chose de meilleur. Il y a quelque chose de formidable. Et toi qui te sens pauvre, il y a un héritage. Toi qui te sens malade, il y a une guérison promise. Toi qui te sens enchaîné, il y a une délivrance qui est là. Le Père a tout ça en réserve pour toi. Et il souhaite ça pour toi. Nous ne sommes pas dans une démocratie, dans le cadre du royaume. Nous sommes dans le cadre d'un roi qui règne et auprès duquel nous sommes appelés à nous soumettre. Vous savez ce qui nous différencie des démons ? Ce n'est pas la foi. Les démons croient. Plus que nous. Satan croit plus que nous. Satan connaît les Écritures mieux que nous. Donc ce n'est pas la foi, ce n'est pas ma connaissance des Écritures qui va changer quoi que ce soit. C'est quoi ? L'adoration, mais c'est-à-dire la soumission. Satan ne s'est pas soumis, il est le rebelle. Ce qui fait la différence, c'est la soumission. Si je me soumets à sa parole, si je me soumets à lui, et la soumission implique l'adoration. Quand on vient auprès d'un roi, est-ce qu'on lui demande tout de suite quelque chose ? Non. Longue vie au roi. Gloire au roi. D'abord, on l'adore. Et quand le roi tend le sceptre vers nous, on peut à ce moment-là parler. Mais on ne lui parle pas tant qu'on ne l'a pas honoré. On ne l'a pas établi comme roi. Et Dieu ne peut pas nous parler ou ne peut pas nous utiliser tant qu'on ne l'honore pas comme il se doit. L'honneur qu'on lui rend va lui permettre d'agir dans nos vies. Et plus on l'honore, plus on se consacre à lui, plus il va agir. Mais si on vient vers lui comme un ami, tout simplement, sans reconnaître cette autorité de roi, ça ne marche pas. Même Jésus dira à ses disciples, « Pendant tout un temps, vous m'avez servi, mais maintenant je vous appelle ami. » C'est qui même qui nous appelle, qui dit qu'on devient son ami ? Jésus lui-même. C'est Jésus qui nous dit, « Vous m'avez servi, maintenant je vous appelle ami. » Ce n'est pas à moi établir qui je suis. C'est Dieu lui-même qui m'établit. C'est Dieu lui-même qui dit qui je suis vis-à-vis de lui. Parce que tout dépend de ce qu'il dit et de ce qu'il a dit sur ma vie. Donc Dieu cherche aujourd'hui des gens qui vont se soumettre, des gens qui vont écouter sa parole et qui vont obéir. c'est ce qu'il cherche, afin que sa puissance puisse se manifester en nous et au travers de nous, et que l'Évangile continue. Je vais m'arrêter là. Je vous propose peut-être de terminer par la prière. Peut-être si l'un ou l'autre veut réagir, j'apprécie ça, si l'un ou l'autre veut réagir dans la prière par rapport à ce qui vient d'être dit, je clôturerai. Et comme je l'ai déjà dit les autres fois, il agit aussi à travers nous. Et donc moi, je suis aussi disponible pour prier après. Je veux vraiment être disponible. Je veux pas juste parler. Je veux aussi que son royaume soit partagé et démontré. Parce qu'il est vivant. Il communique sa paix. Il communique sa libération. Il communique toutes ces choses à travers nous. Et nous sommes appelés à prier les uns pour les autres aussi. Et à voir ces choses se manifester. Donc je serai aussi disponible après pour ceux qui le veulent.